France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Le Front National, entendu par la justice ce matin, le FN, devenu Rassemblement National, est soupçonné d'avoir surfacturé des frais de campagne en 2012. Des kits de campagne auraient caché un montant financier. Sept protagonistes comparaîtront jusqu'à la fin du mois devant le tribunal correctionnel de Paris, et ce pour escroquerie, abus de biens sociaux ou blanchiment. Au Modem, trois personnalités pourraient bientôt être mises en examen. François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard sont convoquées en décembre dans l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants d'europarlementaires. Outre-Manche à présent, le dossier pour destituer Donald Trump prend de l'ampleur avec le témoignage accablant d'un de ses proches. L'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne a reconnu hier avoir lié une aide destinée à l'Ukraine à l'ouverture d'une enquête sur Joe Biden, le rival politique de Donald Trump à un an de la présidentielle. Les États-Unis qui accusent par ailleurs l'Iran de mener un chantage nucléaire. Hier, Téhéran a annoncé vouloir reprendre ses activités d'enrichissement d'uranium, activité gelée conformément à l'accord de 2015. Il s'agit d'une étape supplémentaire dans la réduction des engagements iraniens en riposte au retrait américain. Et cette annonce inquiète évidemment les États-Unis, mais également l'Union européenne et la Russie, signataire du texte de 2015, l'accord de Vienne. Après plus de deux semaines de crise sociale, le président chilien lâche un peu du lest. Pour la première fois, Sebastián Piñera s'est dit ouvert au dialogue. Il reconnaît être responsable d'une partie des problèmes qui se sont accumulés depuis 30 ans dans le pays, mais il exclut de démissionner. Et pendant ce temps en France, le gouvernement est sous le feu des critiques alors que ses 20 mesures sur les questions d'immigration seront officialisées aujourd'hui. Il y a notamment l'instauration de quotas d'immigration économique dans des secteurs d'activité sous tension, le durcissement des conditions du regroupement familial ou encore l'introduction d'un délai de carence de 3 mois pour accéder à la sécurité sociale. Des mesures critiquées dans l'opposition, nous y reviendrons lors du journal de 6h30.
Ce dimanche, à 11h, assistez à l'Esprit public d'Émilie Aubry.
L'Esprit public se sent bien sur la scène du théâtre de l'Odéon. Venez porter avec nous un autre regard sur l'actualité politique et géopolitique.
L'Esprit public avec Brice Couturier, journaliste, Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture, Plantu, dessinateur, et Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. En direct et en public à 11h de l'Odéon Théâtre de l'Europe à Paris. Entrée gratuite, réservation au 01 44 85 40 40. Plus d'infos, franceculture.fr. France Culture présente Cité Philo, 23e édition des Semaines européennes de la philosophie autour du thème « Dire et faire ». 120 rencontres, débats et tables rondes, plus de 200 intervenants, philosophes, artistes et écrivains. À cette occasion, les chemins de la philosophie d'Adèle Vendrette s'installent dans l'auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille les 8 et 9 novembre pour l'enregistrement de 4 émissions en public. Cité Philo à Lille et en région Hauts-de-France du 7 au 8 novembre, un partenariat France Culture.
Pour bien commencer cette journée sur France Culture à 6h03, nous retrouvons Toufik Hakem pour parler cinéma en ce mercredi.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour aux lève-tôt qui nous écoutent à la radio, ainsi qu'aux fidèles abonnés au podcast de l'émission. Bienvenue à tous dans le Réveil culturel. Le mercredi, c'est l'actualité cinéma et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir la grande comédienne Nina Hoss, figure majeure de la nouvelle vague du cinéma allemand, de l'Allemagne réunifiée. Nina Hoss interprète le rôle principal du dernier film de sa compatriote Ina Weisse, qui sort aujourd'hui en France, L'Audition.
Le Réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Danke. Warte bitte draußen.
Ah! Guten Tag, bonjour Nina Hoss, c'est un privilège de vous avoir ce matin dans le Réveil culturel.
Merci, bonjour.
Eh bien, vous parlez français.
Ah non, oui, je comprends, mais ça prend trop de temps de trouver des mots justes.
On a envie de prendre tout le temps qu'il faut avec vous, Nina Hoss. En tout cas, dans l'audition d'Ina Weisse qui sort aujourd'hui au cinéma, vous interprétez le personnage d'Anna Bronski, professeure de violon dans une grande école de musique de Berlin. Et tout le film est orchestré autour de vous. Du personnage que vous interprétez, c'est-à-dire une femme énigmatique, taiseuse. Elle est mariée à un luthiste français, joué d'ailleurs par Simon Abkarian. Elle est mère d'un fils de 10 ans, élève dans son école, donc violoniste lui aussi. Et cette mère va délaisser peu à peu et son mari et son enfant pour relever un défi. Faire admettre au concours d'entrée de cette grande école un élève contre l'avis des autres enseignants. Et donc elle passe la plupart de son temps avec cet élève, se concentre tout entière sur les progrès à lui faire faire, même s'il faut utiliser de drôles de méthodes jusqu'à le déstabiliser. Pourquoi cette femme stricte que vous interprétez va-t-elle pousser au-delà de ses limites cet enfant ?
Da muss ich ganz woanders anfangen, weil
là, il faut que je prenne la chose par un autre bout.
In dem Moment, man lernt, was wir jetzt gerade zu Beginn gehört haben,
dans
man lernt
d'entendre là au début,
als jemand, die in diesem Schüler, als vorspielt, etwas Besonderes, einen besonderen Klang hört.
Oui, on se rend compte qu'on entend un son particulier chez l'un de ses élèves qui vient se jouer cette audition.
Die eigentlich die hat eine sehr große Liebe für die Musik,
eine cette femme adore la musique.
Die diese Musik machen.
Elle un amour immense pour les musiciens.
Sie ist in einem Zeitpunkt ihres Lebens, in dem sie etwas aus der Balance geraten ist.
Mais elle est à un moment de sa vie où elle a perdu son équilibre d'une certaine façon.
Es ist so ein Moment, in den kann man ja vielleicht können sich viele Menschen auch den nachvollziehen.
C'est un moment que beaucoup de gens connaissent dans leur vie.
Hinterfragt und
un moment où on se remet en question.
In meinem Leben will ich nicht noch mal alle meine Träume verwirklichen.
Oui, est-ce que j'ai réalisé tous mes rêves? Est-ce que je suis arrivé où je voulais?
Sicherlich eine Konzertviolinistin zu sein.
Elle aurait rêvé certainement d'être une soliste.
Und sie probiert das im Laufe des Films noch einmal.
Et c'est ce qu'elle essaie de faire une nouvelle fois
und,
pendant le film.
Es gelingt ihr nicht.
Mais elle ne réussit pas.
Und zu diesem und deswegen ist für mich diese der ganze Umgang mit dem Schüler, wo sie sich jegliches Sentiment versagt und wieder zurückfällt in das, was sie schon
c'est ce qui explique, je pense, tout son comportement avec ses élèves, où elle s'interdit tout sentiment
et cette technische Arbeit.
Elle se réfugie dans la discipline de ce travail et elle se met un peu à l'écart.
Sie wird übergriffig.
Comme si c'était un transfert.
Elle abuse un peu de son autorité.
Ja, aber es ist auch eine Bestrafung ihrer
oui,
selbst.
Mais c'est aussi un châtiment pour elle-même.
So habe ich es empfunden. Ich habe festgestellt,
enfin,
dass
je l'ai ressenti comme ça.
Ich möchte gar nicht so viel erklären, wie ich es
j'aimerais pas donner trop d'explications.
Jeder mir eine andere Geschichte erzählt, nachdem er diesen Film gesehen
mais
hat.
Parce que tout le monde me raconte une histoire différente après avoir vu le film.
Geschichte, seine
parce que chacun y projette sa propre histoire de vie.
Hein,
il trouve des relations avec sa propre histoire. C'est intéressant, mais
dass sie in diesem Moment, wo sie den Jungen zu hart
pour moi, à partir du moment où elle prend en main ce garçon, elle se punit elle-même pour ses rêves non réalisés.
Et vous êtes très très seule. Enfin, le personnage que vous interprétez, Nina Hoss, est très seule. Seule avec son mari. On voit bien qu'elle n'arrive plus à communiquer avec lui. Très seule avec son enfant, parce qu'on ne sait même pas si cet enfant est en train de jouer pour faire plaisir à sa mère. Lui, peut-être qu'il préfère faire du hockey sur glace. Et toute l'ambiguïté est là. Elle est même très seule quand elle est avec son amant.
Interessant.
C'est intéressant votre... Votre point de vue.
Ja, ich finde sie nicht nur einsam. Sie
je ne trouve pas
einsam,
qu'elle soit seulement solitaire.
Hat,
elle est seule dans la mesure où elle n'a personne qui pourrait l'aider.
Aber sie ist für mich eine Frau, ein Mensch, der sucht.
Mais pour moi, c'est quelqu'un qui
est
en recherche.
Was mich interessiert ist, dass sie kämpft.
Et elle se bat avec quelque chose.
Sie lässt sich nicht in ihre Traurigkeit verfallen. Also sie
elle ne se laisse pas sombrer dans sa tristesse.
Ja, sondern sie... Sie braucht eben, ich glaube zum Beispiel nicht, dass die Ehe schlecht ist.
Je ne crois pas que ce couple, son couple soit dysfonctionnel.
Dass der Mann sie...
enfin, elle trompe son mari, quand même.
Ja, nein, das ist was anderes. Aber sie
oui,
ist
ça c'est
diesem,
autre chose, mais...
Sie ist in diesem Moment einfach, wie ich meine, auf der Suche.
Mais on voit, comme dans cette scène du restaurant, on voit qu'elle est en recherche de quelque chose.
Elle das nimmt, was sie möchte, dann nimmt sie nicht so viel.
Elle a cet amant auprès de qui elle cherche ce qu'elle n'a pas.
Sie ist einsam.
Elle est solitaire.
Aber das ist nicht ihr Antrieb.
Mais c'est pas ça son moteur. Cette solitude n'est pas son moteur.
Alors quel est son moteur justement?
Na, ich glaube, dass sie also sie kommt aus einer Geschichte, die sehr aus einer, ich würde sagen, eher engen Struktur in der Familie.
Oui, elle vient d'une histoire où sa structure familiale était très très étroite, très elle a choisi un métier où la discipline est au premier plan, où il faut travailler énormément.
Aber, das meinte ich schon zu Beginn, nach dem besonderen Klang.
Et elle cherche, comme je disais au début, ce son particulier, comme lorsqu'elle écoute Menuhin, par exemple.
Elle,
c'est comme si elle cherchait sa liberté dans la musique, d'une certaine façon. Et elle devient son propre obstacle sur son propre chemin, parce qu'elle est toujours obsédée par cette recherche.
Et ihr Antrieb, finde ich, ist diese Freiheit zu finden.
Et son moteur, je pense, c'est cette quête de la liberté.
De la liberté ou de la perfection?
Beides, ja.
Oui, les deux, vous avez raison.
Ja, es ist die Perfektion, aber gepaart, das ist ja, das, ich kenne das als Schauspielerin.
Mais ça va ensemble, moi je connais très bien ça aussi en tant qu'actrice.
Je
dois me préparer, je dois travailler.
Arbeiten, um vorbereitet zu sein, aber in dem Moment der Kreation, sage ich mal.
Mais au moment de création, si on peut dire.
Haben,
je veux vraiment avoir la plus grande liberté possible pour pouvoir réaliser tout cela.
Und mein außen wahrnehmen, um das etwas
entstehen zu lassen, de percevoir tout ce qui m'entoure pour garder le contrôle.
Davor hat Anna große Angst. Und das ist aber ihr Antrieb, dass
sie das Anna est terrorisée par tout ça. Et c'est ça son moteur, c'est d'arriver à retrouver cette liberté.
Nina Hoss, donc, dans ce film, l'audition réalisée par votre compatriote Ina Weisse, qui elle-même est passée par là. Hein. Elle a connu ses concours, elle a connu cette pression dans ses écoles de musique. Elle vous a choisi parce que peut-être que vous-même vous êtes passée par là avant de vous imposer en tant que comédienne. C'est-à-dire passer par des castings, se faire désirer, atteindre la perfection. On a l'impression que ce métier peut se transformer en enfer.
Das métier der Musik, ja?
Le métier de musicien.
Dans le film L'Audition, mais le métier d'artiste d'une manière générale, dans un monde concurrentiel.
Ja,
dans un monde où la concurrence est très forte.
Ja, wobei ich glaube, die Welt der klassischen Musik ist doch noch mal etwas Besonderes.
Mais je crois qu'en plus, le monde de la musique classique est très particulier.
Es ist doch eine, die... dadurch, dass man so viel üben muss,
du fait qu'on doit s'exercer autant pour arriver quelque part, pour avoir simplement la possibilité de s'exprimer. Je pense que la pression est beaucoup plus forte sur les musiciens que sur les acteurs, par exemple. Moi-même, j'ai appris le piano pendant 12 ans.
Für mich war das Schlimmste das Vorspielen.
Le pire, c'était ces auditions, justement. J'adore jouer du piano, mais je déteste jouer devant des gens ou des auditions.
Ich weiß, dass jeder Ton, der falsch ist, wird sofort
wahrgenommen. Je sais que chaque fausse note va être perçue.
Dieser Druck ist nochmal ein besonderer Druck, während ich auf der Bühne stehe.
Cette pression-là, elle est terrible, parce que si je ne trouve pas un mot sur la scène, je peux improviser, c'est pas très grave, je peux me débrouiller.
Ich kann daraus was Lustiges machen.
Je peux en faire quelque chose de drôle. Dans la musique, c'est impossible.
Mais j'espère que vous n'avez pas vécu la même chose avec votre mère. La relation qu'a Anna Bronski avec son fils est la chose la plus dure qu'on ait pu voir dans le cinéma allemand ces dernières années. Hein. Ça a l'air d'être une histoire autour de la musique, un drame bourgeois, mais non, dans ce drame psychologique, la relation qu'elle a avec son fils, c'est-à-dire on ne sait pas si elle aime son fils, on ne sait pas si elle est en train de détruire son fils.
Ja, es ist eine ich glaube nicht, dass sie ihn nicht mag.
Je ne crois pas qu'elle ne l'aime pas.
Aber in diesem Moment, wo wir beide kennenlernen, verstehen sie sich nicht.
Mais ils ne se comprennent pas, tout simplement.
Er weiß nicht, was sie will.
Tel qu'on les voit dans le film, ils ne se comprennent
so
pas.
Außer, wie gesagt, außer balance, dass sie
elle a tellement perdu son équilibre, elle n'a plus aucune sécurité.
Und das verstehen Kinder mit
elle ne
manchmal
peut
falsch
pas lui donner
denken,
de sécurité.
Sie haben was falsch gemacht.
Et les enfants le comprennent de travers, en général, ils ne comprennent pas bien.
In dieser Arena. Und sie steckt all ihre Aufmerksamkeit in
et à partir du moment où elle concentre toute son attention à ce nouvel élève, son fils ne peut plus avoir ce à quoi il a droit, il ne peut plus être satisfait. Son fils est très seul aussi, il est très triste, et d'où cette jalousie. Mais il a une force en lui. Il faut voir après comment chacun interprète ça après. Mais je trouve que c'est une situation horrible. Ouais.
Jonas, konzentrier dich bitte. Komm, nochmal. Das ist wirklich schwierig, Jonas. Setz noch mal an. Was ist denn jetzt?
Ich spiele nicht mehr.
Also hör doch auf, bitte nimm die Geige und spiel weiter.
Nein, ich spiele nicht mehr.
Jonas,
nimm die Geige. Ich spiele nicht mehr.
Jonas, jetzt hör doch auf, jetzt fängst du
an. Lass mich in Ruhe, ich spiele nicht mehr.
Nein, du redest du nicht mit mir, hör mal.
Autre moment très fort dans ce film, l'audition d'Ina Weisse, c'est la confrontation entre le fils du personnage que vous interprétez, donc le professeur de violon, Alla Bransky, et son élève. Et on a l'impression que c'est peut-être ça le vrai sujet du film, l'histoire d'une femme qui voudrait transmettre et qui n'arrive pas justement à relever ce défi de transmission aussi bien avec cet élève qu'elle veut absolument faire admettre dans cette école qu'avec son fils.
Das ist so. Man kann natürlich auch darüber nachdenken, woher das kommt.
Oui, bien sûr, on peut aussi se demander d'où ça vient.
Ob das nicht früher angefangen hat.
Si ça n'a pas déjà commencé
also,
avant.
Ob nicht die Eltern schon auch das nicht haben weitergeben können.
Si oder ses parents déjà n'ont pas été incapables de lui transmettre quoi que ce soit, ou le système scolaire.
Ich glaube, sie kämpft, der Schüler kämpft, der Sohn kämpft.
Elle se bat, son élève se bat, tout le monde se bat.
Aber es ist wahr, sie weiß nicht, wie sie vermitteln soll.
Oui, c'est vrai qu'elle ne sait pas comment transmettre.
Und es endet eben am Ende schrecklich.
Et ça se finit d'une façon terrible.
On ne raconte pas la fin, bien
sûr. Non, c'était pas la fin du film, mais
dans cette scène. En tout cas, Nina Hoss, pour l'interprétation d'Anna Bransky dans ce film, vous venez d'obtenir le prix au Festival de Saint-Sébastien qui s'est terminé la semaine dernière. C'est pas la première fois que vous êtes primée. Je rappelle, Nina Hoss, que vous êtes la muse de Christian Petzold, l'un des chefs de file de la nouvelle vague du cinéma allemand, de ce qu'on a appelé l'école de Berlin. Vous avez tourné avec lui pas moins de 6 films, je crois, hein, oui. De Dangereuses Rencontres en 2001 jusqu'à Phoenix. Du moins, c'est le dernier film qu'on ait vu ici en France. Avec donc ce réalisateur, vous vous êtes imposé, vous incarnez des personnages qui sont confrontés à des situations très très dures, hein. Par exemple, cette juive berlinoise rescapée des camps qui revient à Berlin pour essayer de retrouver son amour, pour essayer de revivre après l'horreur. Ça, c'était dans Phoenix. Autre rôle dérangeant, c'est bien sûr dans le film Barbara, toujours réalisé par Christian Petzold. Là, vous êtes dans le rôle d'une chirurgienne tentant de tromper la vigilance de la Stasi pour passer à l'Ouest. Ça vous a valu même un prix, hein, à l'ours de la meilleure interprète au festival de Berlin, et ça vous a donné une dimension.
Ah non, ça c'était Yella.
Et après, oui, effectivement,
Yella. Yella. Oui.
Voilà, donc vous avez eu des prix, vous avez maintenant une dimension internationale. Vous avez vu dans cette série qui vous a sans doute fait connaître encore plus en Europe en passant par l'Amérique, c'est-à-dire la série Homeland. Il paraît que vous avez une riche carrière au théâtre en Allemagne. Comment êtes-vous arrivé à ce métier? Est-ce que c'est parce que, comme dans le film L'Audition, vos parents vous ont poussé? Vous êtes né dans un milieu artistique, Nina Hoss?
Yeah. Meine Mutter war Schauspielerin.
Ma mère était actrice.
Dann, Regisseurin und
puis metteuse en scène.
Ein Theater oder mehrere geleitet.
Elle a dirigé plusieurs théâtres.
Und ich bin aufgewachsen. Das war die eine Seite, die andere
ça
Seite.
C'est d'un côté et du côté mon père faisait de la politique. Il était l'un des fondateurs du Parti des Verts.
Ah, incroyable. Et vous, maintenant, vous êtes tout à la fois comédienne et artiste engagée.
Oui.
La transmission s'est plutôt bien passée avec vos parents.
Oui. Nina crois aussi. Oui. Ja, aber ich bin eben aufgewachsen im Theater.
Mais j'ai grandi dans le théâtre.
Das war zunächst alles, was ich machen wollte. Das war meine Welt.
Tout ce que je voulais faire, c'était le mon monde.
Wollte ich in dieser Welt sein. Und wollte ich schauspielen. Und
je voulais jouer, absolument.
Ich habe einen kleinen Exkurs über den Opern
gemacht. J'ai fait un petit détour par le chant, par l'opéra.
Und das war zum Beispiel, ich kann mich eben, ich habe diesen Druck gespürt oder dieses.
Et là, par exemple, j'ai senti cette pression énorme dont on parlait tout à l'heure et qui n'existe pas dans le métier d'actrice.
Beim Schauspiel habe ich immer diese Freiheit, diese verrückte Welt.
Quand je joue, j'ai toujours eu cette liberté, qui règne au théâtre.
Et deswegen war dieser Weg,
c'est ça que je cherchais. Et ce chemin a donc été tout naturel pour moi.
Der Film kam eher per Zufall auf mich.
Et le cinéma, ça a été plutôt un hasard.
Weil mich ein Freund damals, ich war 19, vorgeschlagen.
Comment ça s'est passé?
Quand j'avais 19 ans, c'est un ami qui m'a proposé.
Und, weil er schon gecastet war für einen Film.
Et lui avait déjà été pris pour jouer dans un film.
Und sie fanden partout keine Hauptdarstellerin.
Et ils ne trouvaient pas l'actrice pour le rôle principal.
Ils ont cherché
partout. Ils disent, ben, envoie donc ta photo.
Ich hatte gerade an der Schauspielschule Ernst Busch bestanden, was schon ein
großer Erfolg. Moi, je venais d'être accepté à l'école de comédien de Ernst Busch.
Gehe zur Audition.
Et donc, je suis allé passer ce casting.
Und war deswegen sehr frei und habe diese donc, Rolle bekommen.
Je me sentais très libre et j'ai eu ce rôle.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Nina Hoss, quand je vous vois ce matin souriante et votre sourire est irradiant, on se dit que vous pourriez aussi jouer dans des films d'amour, des romances, des comédies. Eh ben non, on vous voit très souvent dans le rôle d'une femme seule, tourmentée, froide, une femme qui incarne la solitude. C'est un choix.
Das sind die besten Drehbücher.
Ce sont les meilleurs scénarios, tout simplement.
Yeah. Ich spiele gerne eine Komödie.
Oui, moi je, aber bisher habe ich,
oder ist mir noch
jouer
keine
comédie,
nahegelegt worden, die mich überzeugt hat.
Mais on m'en a pas encore présenté qui me convainc.
Am Theater zum Beispiel habe ich sehr viele Komödien gespielt.
Pendant au théâtre, j'ai joué beaucoup
so,
de comédies.
So, dass ich persönlich nie das Gefühl habe, ich habe es nicht
moi,
erlebt.
Personnellement, j'ai pas le sentiment de n'avoir fait que des rôles durs.
Aber im Film, das stimmt.
Mais au cinéma, c'est vrai, oui.
Zwingen darin... Drehbücher und Figuren sind
ces scénarios très stricts et ces personnages très durs. Oui.
Vielleicht hat es auch was
et en même temps, c'est ce qu'on propose le plus souvent. Excitant et plus dur à réaliser. Vous le faites bien. Du coup, plein de gens parlent de la Nicole Kidman européenne. Ça doit vous agacer ou pas du tout? Quand vous comparez Nicole Kidman à Joan Crawford, à ce genre de femme un peu dure.
Ja, aber zum Beispiel, beim Beispiel Nicole Kidman.
Mais si on prend l'exemple Nicole Kidman.
Ich stelle mich gerne in einer Reihe, wenn ich das darf, weil sie im Moment so mutig ist. Und
oui,
so
j'accepte cette comparaison parce qu'elle est tellement courageuse en ce moment. Elle joue des rôles où elle peut vraiment surprendre.
Exact.
Dont je l'aurais pas forcément cru capable d'ailleurs.
Die kommen schon noch hoffentlich. Also es kommt immer wieder. Donc,
et elle a pas fini de nous surprendre.
Beim Schauspiel, dass Leute hoffentlich schöne Ideen für einen haben.
Oui, l'important, c'est que les gens aient des bonnes idées à nous proposer.
Oui, et puis enfin, pour terminer, et ce parallèle qu'on n'arrête pas de faire, qu'on fait de moins en moins d'ailleurs au fur et à mesure que vous vous imposez, Nina Hoss, avec Anna Chigula. Alors, Anna Chigula, c'est bien sûr parce qu'elle est très connue en France, parce qu'elle a travaillé avec Fassbinder, et que vous l'aimez, et que vous-même, vous êtes un peu la muse de Christian Petzold. D'ailleurs, est-ce que vous acceptez le terme de muse concernant votre collaboration avec Christian Petzold?
Ja, ich akzeptiere den Term, oder wie sagt
man? J'accepte le terme, si vous voulez.
Wenn man sich eine muse vorstellt, die,
si on se représente une muse qui est capable de discuter, qui pose des questions et qui fait ce qu'elle veut après quand même.
Ouais. Et vous disiez que vous aimez beaucoup...
Aber muse in dem Sinne, dass man jemanden inspiriert für neue Geschichten.
Mais muse dans le sens de quelqu'un qui inspire l'autre pour de nouvelles histoires, oui, c'est très bien.
À la manière d'Anna Chigula pour Fassbinder, par exemple, ouais.
Aber sie war auch eine, die diskutiert hat.
Mais elle aussi, elle discutait beaucoup.
Quel est le cinéma qui vous a nourri, Nina Hoss?
Das französische Kino.
Le cinéma français.
Also damit
c'est d'ailleurs c'est intéressant.
Ouais. Mit Frauen wie Jeanne Moreau oder
je pense à Jeanne Moreau,
Romy Schneider. An der habe ich mich sehr lange, als ich jung war, orientiert.
Quand j'étais plus jeune, c'était un peu un modèle pour moi. Godard, Truffaut, et puis bon, les films de Godard, de Truffaut.
Das sind die Filme, die mir am längsten bleiben. Das ist dann
les films qui nous sont restés le plus, les films de Bergman aussi.
Das ist New Hollywood später gewesen.
Cinéma du Nouvel Hollywood aussi.
Films, die mich
voilà, ce sont les films qui m'ont marqué. Oui.
Et votre carrière américaine, qu'on connaît nous ici à travers la série Homeland, c'est quelque chose qui vous a ouvert des portes? C'est une manière d'interpréter des rôles d'une façon radicalement différente? Ou c'est toujours la même chose, le même métier que vous pratiquez, quel que soit le pays où vous tournez, Nina Hoss?
Wenn ich jetzt, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, aber ich habe das Gefühl, ich bin immer dieselbe.
J'ai le sentiment d'être toujours la même personne, la même actrice.
Bühne, film,
que ce soit sur la scène ou au cinéma,
English,
que ce soit en anglais, en allemand, en français.
En français, vous avez tourné enfin en français?
Oui, dans ce film. Un peu.
Oui,
vous savez,
oui.
Avec
dans ce film, il y a quelques
dialogues. Avec Simon Carian, comme il joue le rôle d'un français. Mais vous n'avez toujours pas tourné dans un film français alors que vous aimez le cinéma français.
Oui, c'est vrai. Bon. Was ich nur sagen kann, ist, wenn ich in einer anderen Sprache drehe.
Ce que je peux dire, c'est que lorsque je tourne dans une autre langue, par exemple pour Homeland,
gedreht, was eine Serie ist mit Taylor Kitsch in der Hauptrolle und Michael C. Hall.
Je parle d'une série que je ne connais pas là, je peux
Shadow
pas.
Play.
Ah, Shadowplay.
Shadowplay. Mm-hmm.
Das immer, wenn ich mit Amerikanern oder mit Briten spiele.
Lorsque je joue avec des Américains ou des Britanniques et en anglais.
Mit mir eher was Körperliches.
Ça me produit un effet physique. C'est le corps est plus libre.
Weil die Amerikaner einfach unwahrscheinlich frei sind.
Parce que les Américains sont beaucoup plus libres de ce point de vue-là.
Sowas überträgt sich.
Alors que le cinéma allemand ou européen, c'est intériorisé, vous voulez dire?
Un peu, oui. Ouais. Ja, wir müssen durch mehr Historie durch.
Bon, oui, on doit traverser plus d'histoire dans le cinéma. Yeah.
Alors, Nina Hoss, vous qui vous...
Oui. Et on le porte dans notre corps.
On comprend très bien, Nina Hoss, vous qui voyagez beaucoup entre l'Amérique et l'Europe. Là, vous revenez du festival de Saint-Sébastien. Je suppose que vous devez avoir un ou deux livres dans votre sac, de la musique. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Qu'est-ce que vous lisez en ce moment?
Ich habe gerade aufgehört, Albert Camus zu lesen.
Oui, je viens de terminer Camus.
Lequel?
L'été, wow.
L'été,
oui. Très beau.
Was ich im Moment höre, ist Nina Simone. Fragen Sie mich
ce que
nicht
j'écoute
warum,
en ce moment, c'est Nina Simone. Ne me demandez pas pourquoi. Mais...
Im Moment hat die Musik von ihr gibt mir Schwung.
C'est sa musique qui me donne de l'élan.
Kraft und
la force.
Ja.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Et ce mercredi, Nina Hoss a été mon invitée à l'occasion de la sortie en salle aujourd'hui du film d'Ina Weiss, L'Audition. Merci Nina Hoss.
Merci à vous.
Merci Bernard Mangione.
Merci à vous.
Cette émission a été préparée activement par Corinne Amard, une de vos fans, Nina Hoss, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son, Cindy Le Grumelec. Bonne matinée, à demain.
Au revoir.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour à 14h, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Balzac écrivant ses premiers romans dans le froid de sa mansarde en conviendra, la littérature est inséparable de l'économie, comme la cassette de l'avare. L'argent tient souvent le premier rôle au théâtre et il a nombre de points communs avec le langage. Alors cessons de nous payer de mots et écrivons l'économie en toutes lettres.
Entendez-vous l'écho, de lundi à vendredi à 14h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Tufik, bonjour à tous. 73% des personnels d'éducation estiment que leur travail a dégradé leur santé ces dernières années. Étude réalisée par le SNES alors qu'aujourd'hui le ministère de l'Éducation veut écouter leurs difficultés. Il envisage un recours au service civique pour les aider. Nous entendrons la réaction d'une directrice d'école dans ce journal. Nous irons aussi dans les couloirs de l'Assemblée nationale où les questions d'immigration ont animé les débats. Ce matin, Édouard Philippe détaillera les 20 mesures de l'exécutif à ce propos. Et puis le président du Conseil européen ne veut pas être président de la Pologne. Il n'est pas candidat, a-t-il dit hier, laissant le champ libre pour l'instant aux conservateurs. Direction Varsovie dans moins de 10 minutes. La souffrance au travail pour les enseignants sera donc au cœur d'un CHSCT extraordinaire ce mercredi. Un comité organisé par le ministère de l'Éducation nationale, un mois et demi après le suicide de Christine Renon, directrice d'école à Pantin en Seine-Saint-Denis. Les tâches de ces directeurs d'école se sont multipliées ces dernières années. 93% des enseignants en France ont d'ailleurs ce sentiment, voilà ce que dit ce matin une étude du SNES-FSU, le syndicat du second degré. 73% des enseignants ont vu leur santé se dégrader. Pour répondre à ce malaise, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, propose de leur apporter de l'aide via les jeunes du service civique. Une solution insuffisante pour Annabelle Roy. Elle est déléguée départementale de l'UNSA de la Haute-Vienne. Elle est aussi et surtout directrice d'école à Saint-Martin-de-Jussac, un petit village à côté de Limoges.
Pour des écoles qui sont d'un grand nombre de classes, cela peut certainement avoir son utilité. Mais pour les petites écoles comme les miennes, on n'a pas le temps. En fait, expliquer les tâches au service civique, c'est des tâches qui pourraient, nous, directeurs d'école, nous délester d'un quotidien qui est parfois trop lourd. Donc je ne pense pas que ce soit une mesure qui soit efficace, en tout cas au sein, encore une fois, des petites écoles. Des écoles qui ont, comme moi, un jour de décharge par mois ou un jour par semaine. Donc ce qu'il nous faut, en fait, c'est du temps de décharge pour nous, du temps de décharge supplémentaire. Des postes supplémentaires dans le premier degré, ça devient absolument indispensable.
Alors par exemple, qu'est-ce qu'on vous demande en plus aujourd'hui ?
Tout ce qui relève des plans Vigipirate, tout ce qui relève des plans particuliers de mise en sécurité dans les écoles pour les alertes intrusion, les alertes attentats, les risques de confinement. Ça, ce sont des choses, des tâches qui se sont rajoutées au fur et à mesure des années pour lesquelles on n'a pas été formés. Surtout nous, les anciens directeurs, entre guillemets, puisque moi je suis directrice depuis plus de 15 ans maintenant.
C'était Annabelle Roy, déléguée départementale de l'UNSA en Haute-Vienne, interrogée par Hakim Kasmi, à l'aube donc d'un CHSCT extraordinaire. Ce mercredi, le gouvernement s'empare également des sujets d'immigration en officialisant une vingtaine d'arbitrages, 20 mesures présentées ce matin par le Premier ministre Édouard Philippe. Parmi elles, il y a l'instauration de quotas économiques afin de pourvoir en emploi les métiers dits en tension. Il y a également le durcissement des conditions du regroupement familial et un délai de carence de 3 mois pour accéder aux soins pour les demandeurs d'asile. Nous l'évoquions d'ailleurs ici même car les parlementaires avait été mise au courant par l'exécutif de ce délai de carence de 3 mois. De quoi faire réagir toute la journée les députés à l'Assemblée nationale, Stéphane Robert.
Les députés de la majorité sont assez partagés sur les premières mesures annoncées. Mais ils estiment toutefois, à l'image du député des Landes, Lionel Causse, que l'exécutif doit s'emparer de cette thématique.
Le but, c'est de répondre à des attentes, à des inquiétudes aujourd'hui quand les Françaises et Français. On voit très bien que les enjeux d'immigration reviennent souvent. Alors que le gouvernement aujourd'hui réponde, parce que vous avez vu qu'il y a eu quelques difficultés ces derniers temps, parce qu'on a vu qu'il y avait une surenchère entre le Rassemblement National et les Républicains pour l'histoire du voile. Nous aussi, on a le droit de faire des propositions et d'avancer sur ces sujets.
Mais ce que propose le gouvernement, comme les quotas économiques ou le durcissement du regroupement familial, ne plaît pas vraiment à la droite, qui considère qu'on marche sur ses plates-bandes et du coup que ça ne va pas assez loin. Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes.
On verra les propositions. Simplement, je suis assez dubitatif sur l'ambition limitée de ce texte. Je ne suis pas sûr que les résultats seront au rendez-vous de ces mesures, comme ne l'a pas été la loi Collomb, qui s'avère être un échec total et absolu aujourd'hui.
Quant au Rassemblement national,
je pense que c'est une vaste fumisterie.
Il y voit une manœuvre politicienne, Marine Le Pen.
C'est de l'enfumage, voilà, qui consiste à parler d'immigration pour faire croire qu'on agit sur l'immigration. Chaque jour qui passe sans qu'on prenne les mesures nécessaires, suppression de l'aide médicale d'État, suppression du droit du sol. Chaque jour qui passe où on ne prend pas ces mesures, eh bien on aggrave la situation de la pression migratoire.
La gauche dénonce également une manœuvre stratégique et accuse Emmanuel Macron de droitiser sa politique à des fins électorales.
Emmanuel Macron qui est en Chine en ce moment alors que ces mesures sont présentées en France. Il termine une visite de 3 jours à Shanghai et à Pékin maintenant. Et Emmanuel Macron vient à l'instant de s'exprimer en conclusion du forum du Conseil présidentiel des entreprises françaises et chinoises. Le président français prône une plus grande ouverture du marché chinois ainsi qu'une mobilisation générale sur les questions climatiques. La France annonce la mort d'un chef djihadiste au Sahel, le Marocain Ali Maïchou, tué par l'armée française le mois dernier. Voilà ce que dit la ministre des Armées, Florence Parly. Elle explique que cet homme était un recruteur à l'origine de plusieurs attentats. Le Front National et son entourage ont-ils financé leurs campagnes électorales entre 2012 et 2015 grâce à des escroqueries au préjudice de l'État? Un procès doit répondre à cette question. 7 protagonistes de l'affaire, dont 2 cadres du parti, comparaissent à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris, Antoine Marette.
3 personnes morales sont poursuivies dans cette affaire. Le Front National, devenu le Rassemblement National en 2018, le micro-parti Jeanne et la société de communication Riwal. Riwal qui est soupçonné d'avoir surfacturé du matériel de campagne aux dépens de l'État, des kits de campagne obligatoires comprenant des tracts, des affiches et un site internet que les candidats FN aux législatives devaient acquérir pour la somme de 16 650 € pièce. Il contractait pour cela un prêt auprès du micro-parti Jeanne. Au cœur de ce dossier, Frédéric Chatillon, cet ancien responsable du GUD, est un proche de Marine Le Pen. Il est accusé d'avoir mis en place un véritable système frauduleux pour aider le FN en proie à des difficultés récurrentes de financement et d'en avoir profité au passage pour s'enrichir au détriment de l'État. Son associé Axel Lousteau est également poursuivi, tout comme l'eurodéputé Jean-François Jalque pour escroquerie. Le trésorier du FN, Valran de Saint-Just, est quant à lui poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux. Dans l'autre volet de cette affaire, Jean-François Jalque, le micro-parti Jeanne et Frédéric Chatillon vont également être jugés pour des montages financiers semblables, cette fois-ci lors des municipales et des européennes de 2014 et lors des départementales de 2015.
Voilà de quoi faire trembler un peu plus Donald Trump à 1 an de la présidentielle. Un diplomate américain admet avoir conditionné une aide militaire destinée à l'Ukraine en échange de l'ouverture d'une enquête sur Joe Biden, rival de Donald Trump. Son témoignage est le plus accablant recueilli à ce jour par les démocrates. Ils ont, je vous le rappelle, entamé une procédure de destitution contre le président américain. En Pologne, Donald Tusk ne sera pas le prochain chef d'État. L'actuel président du Conseil européen a annoncé hier qu'il ne briguera pas la présidence de son pays en mai prochain. Sa décision était très attendue à Varsovie, à la fois par son camp et par ses adversaires conservateurs, actuellement au pouvoir via Andrzej Duda. Les libéraux polonais vont maintenant devoir trouver un autre candidat, Damien Simonard.
Il devait annoncer sa décision le 2 décembre à l'issue de son mandat au Conseil européen. C'est finalement avec un mois d'avance que Donald Tusk s'est prononcé sur son avenir.
Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas me présenter à la prochaine élection présidentielle. J'annonce cette décision aujourd'hui parce que le temps presse et je ne voudrais en aucun cas rendre plus difficile pour l'opposition le choix d'un candidat.
Considéré par beaucoup comme le candidat le plus dangereux pour l'actuel président polonais Andrzej Duda, Donald Tusk est depuis longtemps la cible numéro un du parti nationaliste Droit et Justice. La large victoire de ce dernier aux récentes élections législatives a été un frein à la candidature de Tusk.
Je pense que nous pouvons gagner cette élection, mais pour cela, il faut un candidat qui ne soit pas lesté d'un bagage de décisions difficiles et impopulaires. Moi, j'ai un tel bagage depuis le temps où j'ai été Premier ministre.
Donald Tusk fait référence à l'augmentation de l'âge de la retraite à 67 ans, à la réforme du système d'assurance santé ou encore à la privatisation d'entreprises publiques par des capitaux étrangers. Sa non-candidature pour 2020 laisse un vide énorme chez les libéraux qui vont devoir trouver un nouveau leader avant la fin de l'année.
C'était Damien Simonard pour France Culture. Ce sera officiel ce mercredi. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, va dissoudre le Parlement. Il annoncera ensuite formellement la tenue d'élections anticipées pour le 12 décembre prochain. Les enquêtes d'opinion créditent pour le moment les conservateurs d'une avance confortable sur le parti travailliste, mais ils préviennent. L'opinion est inhabituellement volatile à un peu plus d'un mois de l'échéance. Seul le sud-est de la France sera ensoleillé aujourd'hui. Partout ailleurs, les averses ponctueront la journée sous des températures de saison, avec ce matin 9 degrés à Besançon, 10 à Lille, 12 degrés à Nantes, Paris et Lyon, comptez 14 degrés à Bordeaux et 17 degrés à Toulon. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal, bonjour à toutes et à tous.
À 6h40, c'est l'heure de votre journal des idées. Et Jacques, ce matin, l'Observatoire international des prisons, l'OIP, alerte, il a perdu 66% de ses subventions publiques.
Oui, alors que le nombre de personnes détenues a atteint en 2019 des records inégalés, l'OIP n'a jamais été aussi peu soutenu par l'État, souligne le communiqué de presse publié aujourd'hui, qui précise le montant des aides des organismes publics et des collectivités territoriales qui se sont désengagées. Il rappelle aussi l'importance des missions de l'association. L'OIP, c'est un interlocuteur essentiel pour les dizaines de milliers de personnes détenues ou proches de détenus confrontées à une incarcération et dont l'ensemble des repères sont alors bouleversés. Ils reçoivent auprès de l'association des renseignements, des conseils, une simple attention. C'est également une source d'information et une force de proposition respectée par les institutions, les parlementaires, les groupes de travail ministériels qui sollicitent son analyse lorsqu'ils traitent de questions en lien avec l'univers carcéral. Et c'est surtout un garde-fou essentiel contre les abus de pouvoir dans un monde clos, invisible, où il est tellement aisé de les faire prospérer et de les cacher. L'OIP édite une revue, Dedans Dehors, dont la dernière livraison propose un dossier sur l'enfermement des mineurs, alors que tous les textes présentent la détention d'un mineur comme une anormalité uniquement acceptable en dernier recours et insiste sur la primauté de l'éducatif sur le répressif. Chaque année, environ 3000 jeunes sont emprisonnés, 80% d'entre eux en détention provisoire. L'arsenal législatif s'est considérablement augmenté depuis quelques années en pénalisant des comportements spécifiques aux mineurs comme le stationnement dans les halls d'immeubles par exemple. Laure Anneli étudie le dispositif des centres éducatif fermé, intermédiaire entre le foyer et la prison. Le problème, c'est que ce sont souvent, paradoxalement, des accélérateurs d'incarcération dans la mesure où le placement dans ces établissements se fait dans le cadre d'une mesure probatoire, comme le contrôle judiciaire ou le sursis avec mise à l'épreuve. Du coup, la moindre incartade vous ramène à la case prison et la discipline tient davantage de la coercition que de la recherche d'adhésion. Fouilles à nu, pratiques de contention, violences en miroir sont dénoncées par l'OIP, qui recueille notamment les témoignages d'éducateurs déplorant le manque de formation de certains de leurs collègues. Et dans un contexte de maîtrise, voire de réduction des budgets alloués à la protection judiciaire de la jeunesse, la création de ces centres s'est faite au détriment des autres structures non coercitives, le milieu ouvert ou les foyers éducatifs. Les cahiers dynamiques, la revue professionnelle de la protection judiciaire de la jeunesse, publie un étonnant dossier sur le secret crée, celui qui protège et celui qui dévaste. Le premier, c'est celui qui respecte l'intimité du jeune. Les personnels sont soumis au secret professionnel, un principe de confidentialité qui autorise les confidences et notamment de se délivrer d'une autre forme de secret plus oppressant et dévastateur, celui qui couvre les violences subies. Même si le secret professionnel n'est pas opposable au juge des enfants qui doit avoir connaissance des éléments lui permettant d'apprécier la situation du mineur, la confidentialité crée un cadre relationnel sécurisé pour le jeune. L'univers carcéral reflète, on le sait, reflète et amplifie les tensions et les inégalités sociales. C'est particulièrement vrai aux États-Unis où 2,3 millions de personnes sont détenues avec une proportion sidérante de noirs, lesquels ne représentent que 6% de la population. Les éditions Divergence publient le livre explosif de Jackie Wang, Capitalisme carcéral, qui s'emploie à montrer comment les appareils de répression s'articulent à la violence de l'économie et du racisme, et ce depuis les temps de l'esclavage. Là aussi, les taux de criminalité n'ont cessé de baisser alors que la population carcérale continuait de progresser. Un détail qui en dit long sur les logiques prédatrices qui gouvernent également l'exploitation du travail sous-rémunéré en prison. Les consignes données à la police de nombreuses villes d'arrêter les conducteurs de couleur pour leur infliger des amendes dont le non-paiement entraîne des majorations disproportionnées, voire à terme la prison, une manière de renflouer les caisses pour réduire les taxes foncières des plus riches. Le procédé est confirmé par l'historienne américaniste Sylvie Laurent, qui tire les leçons du mouvement Black Lives Matter, les vies des Noirs comptent, dans les pages idées de Libération. À Ferguson, d'où le mouvement est parti, à la mort de Michael Brown, le harcèlement policier était lucratif pour la municipalité qui, comme des centaines de collectivités locales dans le pays, fut sommée de rendre des comptes sur des pratiques de discrimination systématique. Vous écoutez France Culture, il est 6h45 pile, vous pouvez régler vos montres. C'est à la seconde près, bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Aujourd'hui, dans les enjeux internationaux, radioscopie d'une transition politique en cours, et c'est au Soudan.
Oui, alors qu'au Liban, en Algérie, en Irak, pour ne citer que, les soulèvements en cours croient à leur pouvoir de changement et de réforme, mais ne paraissent pas pour l'instant en position ni de négocier avec le pouvoir ni de le prendre. C'est le cas aussi en Guinée ou en République démocratique du Congo, on en parlait la semaine dernière. Eh bien, le Soudan paraît aujourd'hui le seul contre-exemple. Alors, il ne s'agit pas de comparer des pays aux trajectoires très différentes, mais de comprendre comment l'insurrection soudanaise a pu avoir des débouchés politiques concrets, même si on n'en est qu'aux prémices de la transition. Il faut dire qu'il avait un peu d'avance. Les grandes manifestations qui ont fini par avoir raison de la dictature d'Omar el-Béchir avaient commencé il y a un an à peu près. Bonjour Clément Dehaye.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue à Paris 8, chercheur au collectif Noria. On peut peut-être avec vous commencer par redire en quelques mots la chronologie enrichie du recul qu'on a aujourd'hui de ce long soulèvement pacifique que l'armée a fini par soutenir sur la fin en faisant tomber Omar el-Béchir au pouvoir depuis 30 ans.
Alors, comme vous l'avez dit, le soulèvement soudanais a commencé mi-décembre et a duré pendant donc presque un an. On a commencé par plus de 6 mois de manifestations, d'abord éparses, de plus en plus massives, un peu partout dans le pays, jusqu'à la date fatidique donc de la chute d'Omar el-Béchir, le 11 avril. Le 6 avril, juste avant, une grande manifestation rassemblant des centaines de milliers de personnes a réussi à converger devant le commandement général de l'armée et s'est installé à cet endroit-là. L'armée a réagi et a destitué Omar el-Béchir. À partir de cette phase-là, on est rentré dans une période de négociation entre l'armée et un certain nombre de groupes civils. La différence avec les pays dont vous avez parlé, c'est que très rapidement, des syndicats de professionnels clandestins ont pris le relais des manifestants et ont négocié avec l'armée.
L'association des professionnels soudanais.
Exactement, qui est une association qui regroupe des formations plutôt de professions plutôt libérales, donc des médecins, des professeurs, des infirmiers, des pharmaciens, et qui ont négocié avec le régime et qui ont été vraiment la voix de la rue et qui ont permis d'aiguiller également les partis politiques d'opposition vers des négociations et une pression sur les militaires.
Donc avec une vraie force de frappe, cette association des professionnels soudanais, beaucoup plus par exemple que la Lucha dont on parlait la semaine dernière avec Marlène Rabault en République démocratique du Congo, des civils qui pacifiquement vont manifester. Mais l'association des professionnels soudanais, est-ce qu'avec le recul on peut comprendre pourquoi elle a réussi à avoir ce pouvoir-là ?
Il y a eu une accumulation au Soudan depuis une dizaine d'années de protestations et de contestations diverses où les acteurs politiques et les acteurs civils, mais également des comités dans les quartiers populaires se sont formés et se sont rodés à des techniques de protestation, d'évitement de la police, de pression. Il y a quand même eu un certain nombre de larges manifestations en 2013 et 2012 qui ont été réprimées dans le sang, qui ont été très violemment réprimées par le régime. Et donc au fur et à mesure, il y a eu une acquisition par les protestataires et par le personnel politique d'opposition clandestin de certaines formes de compétences pour pouvoir négocier avec les militaires ensuite.
Donc le 11 avril, Omar el-Béchir est destitué, se met en place un conseil militaire de transition, progressivement remplacé par un conseil dit souverain. Il compte 11 membres ce conseil, 5 civils, 5 militaires et un 11e membre désigné conjointement par les deux parties. C'était déjà une gageure de le mettre en place, il fallait qu'il soit représentatif. Et au Soudan, représentatif, ça veut dire beaucoup de choses.
Alors ça a été très très long en effet cette négociation parce que les militaires voulaient rester majoritaires déjà, ce qu'ils ont fini par admettre, par remettre en cause. Par contre sur la représentation il fallait des gens des différentes régions en guerre puisque le Soudan étant, connaît deux guerres civiles donc au Darfour et au Kordofan et un petit peu au Nil Bleu mais de manière un petit peu plus marginale. Et en plus, un certain nombre de représentations politiques, donc dès l'association des professionnels, de certains partis politiques, des femmes, mais aussi des coptes soudanais. Donc ce conseil souverain a été très compliqué à mettre en place.
Et des femmes
Deux, membre, la 11e, a été finalement une femme également, une femme copte.
Il fallait aussi faire en sorte que ce conseil ne se laisse pas phagocyter par les généraux. Or, qui retrouve-t-on dans ce conseil ? C'est même son président, Abdel Fattah al-Burhan, général qui a accompagné Omar el-Béchir pendant ses 30 ans de règne. Présent également le général dit Emeti, dont les hommes avaient réprimé dans le sang une manifestation à Khartoum début juin devant le QG de l'armée. Cela remet en cause aujourd'hui, tel que vous l'observez, le transfert du pouvoir des militaires vers les civils, c'est ce que prévoit l'accord. Est-ce qu'ils réussissent à montrer un peu de bonne volonté là-dessus ?
La situation est encore assez fluide pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour tirer des conclusions, mais les militaires ont refusé la constitution d'un gouvernement civil pendant longtemps, ils ont négocié pied à pied de garder le maximum de prérogatives, au fur et à mesure sous la pression avant tout de la rue, puisque de nombreuses manifestations ont continué après avril, et notamment en juin et en juillet, les militaires ont progressivement lâché un petit peu de pouvoir. Pour autant, les militaires sont toujours présents, notamment le chef milicien, puisque ce n'est pas un militaire, Emeti, le général Emeti est un général de milice, qui a été rattaché à l'armée, mais qui est une milice paramilitaire qui détient énormément de pouvoir économique et militaires au Soudan actuellement. Donc voilà, on est dans une situation où les militaires lâchent un petit peu, les civils prennent de plus en plus de confiance. Néanmoins, les militaires sont toujours là, ils gardent le contrôle sur le ministère de la Défense, sur le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Donc on n'est pas dans une dynamique où les militaires sont complètement mis de côté. Ils gardent un certain nombre de prérogatives économiques. Le Conseil souverain dans lequel qu'ils président valide les nominations du gouvernement civil. Donc les militaires sont toujours bien présents dans le régime actuel, même s'ils ont perdu énormément de pouvoir.
Avec une question sur laquelle achoppent les discussions sans doute en ce moment. Or, hier, il y a eu une actualité, une partie de l'opposition a dit accepter ou ne pas émettre d'objection au fait qu'Omar el-Béchir soit transféré à la Cour pénale internationale qui le poursuit depuis des années pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité commis au Darfour. Les militaires, eux, risquent de ne pas en avoir envie, notamment parce qu'il n'y a pas qu'Omar el-Béchir qui serait concerné.
Exactement. Il ne faut pas oublier non plus qu'Omar el-Béchir est lui-même un général de l'armée. Donc c'est un militaire et donc il y a un esprit de corps pour le protéger un petit peu, en tout cas. Néanmoins, on a une vraie avancée du côté civil, puisque jusque-là, il n'était pas dans les négociations, même avec les militaires, de penser à une extradition d'Omar el-Béchir. On arrive aujourd'hui à cette possibilité. Donc la négociation n'est pas finie, puisque les militaires vont très probablement s'opposer à cela. Après, cette possibilité va donner lieu à des négociations de pouvoir, puisque les militaires vont peut-être accepter que seulement Omar el-Béchir soit extradé et non pas les autres militaires qui sont poursuivis par la CPI. Tout ça va être un jeu d'équilibre et de rapport de force.
Alors le Premier ministre et ce gouvernement civil dont vous avez parlé, Clément Dehaye, Premier ministre Abdallah Hamdok, un ancien économiste avec une très bonne réputation, mais qui a longtemps regardé le Soudan de loin parce qu'il vivait en Éthiopie où il avait des fonctions importantes à l'ONU. Il avait trois priorités. La première, c'était de mettre fin aux pénurie de nourriture. Est-ce qu'il a trouvé l'argent nécessaire, ce qu'il cherchait quand il est arrivé? Je crois qu'il avait besoin de 2 milliards au départ, puis 10 sur le moyen terme.
Alors, les pénuries n'ont pas cessé. Il y a moins de pénuries de devises, parce qu'il y avait un problème d'argent liquide au Soudan, donc pour acheter de la nourriture. Mais en revanche, les pénuries d'essence, de pain, de gaz continuent. Alors, elles sont un peu plus faibles qu'en fin d'année dernière, mais elles sont toujours là. Donc, l'argent frais, de toute façon, le gouvernement va avoir besoin de temps. La population soudanaise le sait dans l'ensemble. Néanmoins, la situation économique reste dramatique.
Un mot aussi, parce qu'il devait mettre en place, il l'a fait, un gouvernement de technocrates. Il l'a fait début septembre après de longues tergiversations. Et c'est exactement ce que réclament les Libanais. Alors qu'ici, quand on dit en France un gouvernement technocrate, c'est pas ce qui...
Oui,
alors
il faut aussi se replacer dans un contexte soudanais où l'opposition, alors non pas les professionnels, les syndicats, mais les syndicats ont très rapidement dit qu'ils n'avaient aucune vocation à gouverner, mais les partis politiques soudanais sont largement décriés, même les partis politiques d'opposition, puisqu'ils sont tenus pour certains responsables de l'arrivée d'Omar el-Béchir dans les années 90, et les Soudanais se souviennent des grandes crises économiques également des années 80 où les gouvernements civils avaient le pouvoir. Donc on est dans une dynamique un petit peu différente, même si une partie des Soudanais regarde ce gouvernement technocrate avec un petit peu de circonspection, notamment toute la gauche soudanaise qui voit d'un œil mitigé l'arrivée d'anciens conseillers du FMI et de l'ONU à la tête du pays. Donc on est pour l'instant sur un soutien global parce que il y a un rapport de force avec l'armée et donc la priorité est de garder un gouvernement civil. Néanmoins, les mesures économiques de ces ministres vont être scrutés de près par une partie de la population.
La question de la souveraineté est toujours très sensible et notamment celle la question du transfert de Omar el-Béchir devant la CPI, c'est aussi une question de souveraineté et qui fait peur au Soudan.
Bien sûr, et le Soudan a également une dette absolument énorme. Donc cette question de la souveraineté et de la négociation de la dette va être également au cœur des prochains mois au Soudan.
Alors la transition doit durer 39 mois, un peu plus de 3 ans. Qu'est-ce qui pourrait faire échec? Elle est encore fragile. À l'extérieur, évidemment, en Égypte, on n'a pas tellement intérêt à ce que ça marche.
Alors pour l'instant, les parrains régionaux sont sous la pression des États-Unis et de l'Europe pour que cela fonctionne. Néanmoins, en effet, l'Égypte, le régime militaire égyptien, ne voit pas d'un œil favorable cette transition. Ils vont continuer à soutenir l'armée et essayer de maintenir l'armée dans une position de force au Soudan. L'enjeu ne va pas être tellement pour l'instant dans les prochains mois ou dans l'année à venir. Est-ce que il va y avoir un coup d'État ou non? On est plutôt sur savoir quelle place vont prendre les militaires et les civils. Quel va être le rapport de force? Par contre, sur le long terme, la question va se reposer à nouveau.
Le long terme, le temps joue en faveur des militaires. Parfois, ça a été le cas en Égypte et c'est sans doute ce qu'il se dit aujourd'hui au Caire. Merci beaucoup Clément Dehaye d'avoir été avec nous ce matin. Merci, bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Marche et démarche, une histoire de la chaussure. Comment femmes, hommes et enfants marchent-ils à travers le temps, les cultures et les groupes sociaux? Cette exposition explore le rapport entre corps et mode à travers un accessoire quotidien, la chaussure. Avec plus de 500 œuvres présentées, redécouvrez une pièce vestimentaire, parfois anodine, souvent extraordinaire. Marche et démarche, une histoire de la chaussure, du 7 novembre au 23 février 2020 au Musée des Arts Décoratifs à Paris, un partenariat France Culture.
Comment se propagent les complots imaginaires? Mécanique du complotisme en podcast original. La série se poursuit avec le grand remplacement, un virus français.
All right, we are following an active shooter situation in the area of Wilkins and Shady in Pittsburgh.
Les élites mondiales organiseraient avec l'immigration le remplacement de la population occidentale.
And a mass shooting in El Paso.
Une théorie du complot devenue mot d'ordre politique au sein des mouvements identitaires. En podcast original sur franceculture.fr et toutes les plateformes dédiées.
Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon.
Bonjour.
Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous.
6h57 sur France Culture, c'est votre humeur du jour. Il se passe des choses, Guillaume, sur les chaînes d'infos en continu.
Bah oui, Jean-Marie Gouriot, auteur des Brèves de comptoir, est devenu rédacteur en chef de la plupart des chaînes d'infos continu. LCI, CNews, Gouriot travaille beaucoup pour organiser ces débats qui se succèdent sur les chaînes d'infos. Par exemple, pour la seule journée d'hier, il a nourri deux saillies remarquées, deux tirades remarquables. La première expliquait, je cite, que lorsque l'on est au SMIC, faut peut-être pas divorcer. L'autre exigeait que la police, je cite toujours, tire à balles réelles dans le cas de violences urbaines, comme ce qui s'est passé à Chanteloup-les-Vignes. Alors ces deux assertions, n'en doutez pas, sont de vrais rêves de comptoir. Signé Jean-Marie Gouriot, elle renvoie un peu à cette maxime. Il est con comme un iceberg, trois fois plus con que ce qu'on voit. Gouriot est devenu rédacteur en chef de chaîne d'infos continue, ou bien, et cela revient au même, c'est le monde de l'information, ce qu'il en reste, qui s'est twitterisé, comme si Twitter devenait le mode normal de commentaires de l'actualité, non pas uniquement en raison de la forme brève, mais pour la dimension arbitraire, subjective, qui permet l'énonciation de tous les avis. Cette évolution marque l'avènement du troisième âge du commentaire d'actualité. Alors, il y eut jadis, à l'époque des fondateurs, un régime de certitude. On avait la sensation de dire des choses scientifiques sur la réalité sociale, une certitude qui est progressivement partie en lambeaux. Puis on est passé à un régime d'opinion, où les idéologies, les valeurs avaient droit de citer. Mais là aussi, ce régime-là s'est fait la malle. Et voilà l'avènement du régime de l'avis. J'ai un avis lié à ma subjectivité, ce qui me traverse l'esprit au moment où je vous parle. Les smicards ne devraient pas divorcer. Les policiers devraient tirer sur les jeunes violents. C'est ce que je pense. Et voilà tout, le régime de l'avis emporte tout. Ce que je pense du divorce, des violences urbaines, des voyages spatiaux. Je n'ai lu aucun livre. Et la chair est triste, ou comme le dit Gouriot, un livre sera toujours moins fort qu'un litre de vin pour modifier ce que tu penses.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Les grandes lignes des annonces du gouvernement sur la question de l'immigration sont maintenant connues. Renforcement des contrôles, durcissement de l'accès à certaines aides, mise en place de quotas pour l'immigration économique. Assiste-t-on à un revirement de la politique migratoire française? Eh bien, on va en discuter à partir de 7h40. On sera en compagnie du démographe Hervé Lebras et de Claire Rodier, elle est directrice du GISTI. Et puis, on parlera également de la privatisation de la Française des Jeux. S'agit-il d'un jackpot pour les Français? Mais ça sera dans une quinzaine de minutes. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil.